Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
Le pape a visité ce mardi le centre Astalia à Rome, un centre animé par les jésuites et qui s'occupe d'accueillir des réfugiés. Une visite au cours de laquelle François a prononcé un discours fort où il est revenu sur le drame de l'immigration et sur la manière dont les pays d'accueil doivent réagir. Le pape qui a également lancé la proposition de mettre les couvents vides au service des plus pauvres. Nous verrons les réactions que cette idée a suscité en France. Lettre à ceux qui ne croient pas, c'est le titre d'une missive du pape au directeur du quotidien italien La Repubblica. François répond à Eugenio Scalfari qui, dans les colonnes de son journal, avait proposé une série de réflexions sur l'Église et le ministère des papes. Et puis, depuis la fin août, se tient à Rome le 184e chapitre général de l'ordre de Saint-Augustin. Le pape François l'avait inauguré en célébrant la messe à l'église Saint-Augustin en plein cœur de la capitale italienne. Une première, retour sur les priorités de l'ordre et ses défis. Bienvenue dans ce magazine. Le Saint-Père a visité le centre Astalli de Rome ce mardi. Il avait été invité par le père Giovanni Lamana. Il s'agissait d'une visite strictement privée, administrée par le service des jésuites pour les réfugiés. Ce centre, fondé en 1981, est devenu une référence à Rome et en Italie. 450 personnes sont prises en charge chaque jour. Après son déplacement sur l'île Lampedusa le 8 juillet dernier, la visite du pape au centre Astalli s'inscrivait dans une démarche de dénonciation de la mondialisation de l'indifférence sur la question des réfugiés. Le pape y a prononcé un discours fort dans lequel il est revenu sur le drame de l'immigration et sur la manière dont les pays d'accueil doivent réagir. Compte rendu de Thomas Chabol.
Les guerres, les conflits qui font fuir les populations, puis un voyage difficile, exténuant et même violent pour tous les réfugiés à la recherche de paix et de sérénité. Le pape a rappelé ainsi les souffrances endurées par les réfugiés qui arrivent en Italie. Il a pensé surtout aux femmes, aux mères qui doivent supporter ces douleurs afin d'assurer un futur à leurs enfants. Rome, a-t-il insisté, devrait être la ville qui leur permet de retrouver une dimension humaine, de retrouver le sourire. Malheureusement, ces personnes qui portent sur leur permis de séjour le tampon protection internationale doivent affronter d'autres difficultés. Elles sont contraintes à vivre dans des situations de pauvreté parfois dégradantes, a souligné le souverain pontife, sans avoir la possibilité de recommencer une vie digne. Le pape a loué ainsi les vertus du centre Astalli et la dévotion des volontaires qui y travaillent, des personnes qui montrent que l'accueil et la fraternité peuvent encore ouvrir une fenêtre sur le futur. Le pape a insisté également sur la notion de service. Servir signifie accueillir une personne avec attention, cela signifie se pencher sur ceux qui sont dans le besoin et leur tendre la main, sans calcul, sans peur, avec tendresse et compassion. Le pape est même allé plus loin en affirmant que la solidarité était un mot qui fait peur au monde développé. Il cherche à ne jamais le prononcer. C'est presque un gros mot, mais c'est notre mot, a lancé le pape François devant les réfugiés. Enfin, il a demandé aux religieux et religieuses à ce que les couvents vides ne soient pas transformés en hôtels pour gagner de l'argent, mais qu'ils servent à accueillir les réfugiés.
Le pape s'est adressé directement aux instituts religieux lors de cette visite, les appelant à lire sérieusement et avec responsabilité les signes du temps. Le Seigneur appelle à vivre avec plus de courage et de générosité l'accueil dans les communautés, les maisons, les couvents vides que l'Église ne doit pas transformer en hôtel pour gagner de l'argent, mais utiliser en faveur des réfugiés. Les couvents vides ne sont pas les nôtres, ils sont pour la chair du Christ que sont les réfugiés. Le Seigneur appelle à vivre avec générosité et courage l'accueil dans ces couvents. Alors, est-ce possible? La dominicaine sœur Anne-Claire Danjard est la porte-parole de la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France. Elle réagit à cet appel lancé par le pape François.
Ce que dit le pape, nous y contribuons, enfin nous le relayons bien volontiers chaque année et nous voulons le suivre sur ce qu'il dit. L'année dernière, avec l'interpellation de la ministre Cécile Duflot à propos des logements, on avait montré un petit peu ce qui se faisait dans la vie religieuse. C'était une découverte pour les gens. Quelle était notre attention aux plus pauvres, aux plus faibles, à ceux qu'on retrouvait à la rue trop souvent pendant les campagnes d'hébergement d'hiver. Donc on avait mis les choses au clair.
Est-ce que vous pourriez nous redonner un ou deux exemples de ce que vous faites à la fois pour l'accueil des personnes sans abri, mais aussi peut-être des réfugiés?
Plus que donner des exemples, je pense que c'est plus une attitude et une manière d'être de la vie religieuse face à ces problèmes de société, comment on peut rentrer dans un mouvement de solidarité avec ce qui se vit. Et la vie religieuse, c'est pas du cas par cas, oui, c'est une attitude et cette attention aux plus pauvres. Donc, il y a des communautés qui, humblement et de manière assez cachée d'ailleurs, parce que c'est naturel pour elles d'accueillir et de recevoir, que ce soit des migrants ou des gens à la rue, qui font des choses sur le terrain. Et ça, on peut le découvrir facilement quand on approche les communautés religieuses. Ça reste quelque chose de naturel pour la vie religieuse. Quand quelqu'un sonne à la porte d'un couvent, on lui ouvre toujours la porte.
Au centre Astali, le pape a quand même critiqué, entre guillemets, deux phénomènes. Le fait que des couvents se transformeraient en hôtel et également que des couvents soient le lieu de mondanité spirituelle. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Est-ce que c'est le cas en France?
La COREF reçoit ces interpellations, que ce soit d'ailleurs du monde politique ou du pape d'ailleurs. Et on doit être soucieux de savoir se remettre en question aussi dans ses pratiques et sa manière d'accueillir. Nous, notre souci, c'est vraiment de travailler avec la société, de relayer aussi pendant les campagnes d'hiver, par exemple, ce qui peut se faire. Et d'alerter les supérieurs majeurs sur ces demandes d'accès. Quant à parler de mondanité ou de... Je ne suis pas sûre qu'on puisse séparer ce qui est du spirituel de l'humain. Combien d'abbayes reçoivent des gens qui font la route, qui font une pause, hein, et à chaque fois ils sont reçus sans leur poser de questions sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Et c'est leur humanité qui est d'abord accueillie, avec des temps de parole aussi, peut-être de remise en forme. Et là, il n'est pas question de monnayer ce temps-là. C'est un temps gratuit pour l'autre et au-delà de ça, pour le Christ.
Aujourd'hui, le pape vous appelle à faire plus que ce que vous ne faites déjà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi pour vous des difficultés justement à faire plus? Baisse des vocations, une démographie un peu vieillissante, peut-être pas assez de bénévoles?
Plutôt que de parler de difficultés, moi je parlerai plutôt d'opportunité de la vie religieuse dans sa relation, par exemple, au laïc ou à la société. Au laïc, ça peut être un mouvement qui se développe beaucoup en France, les laïcs associés, qu'on appelle amis, fraternité, compagnons, tous ces laïcs qui se rapprochent des communautés, des familles spirituelles et qui vont travailler main dans la main et suivre le charisme de l'Institut. Et on les retrouve dans les domaines médico-sociaux, dans le domaine de la solidarité, de l'accueil aussi. Donc les communautés, elles ont ce relais aussi auprès des laïcs et ils travaillent ensemble main dans la main. Et puis un deuxième mouvement, je pense, auquel il faut qu'on soit attentif dans la vie religieuse, c'est le travail aussi avec la société. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ces problèmes de sans domicile fixe, de pauvreté qui va grandissante, c'est vrai. Voilà, comment on peut réfléchir ensemble et faire avancer les choses.
Donc un vrai dialogue avec les administrations publiques, avec les associations, s'appuyer sur les laïcs associés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la question, ça fait évidemment plusieurs années qu'on en parle, du patrimoine immobilier que parfois des communautés sont contraintes de vendre totalement ou partiellement. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un souci qu'il faudrait avoir pour savoir à qui on vend ce patrimoine pour que précisément il serve au mieux la mission chrétienne?
Les congrégations sont soucieuses justement de leur transmission. Il y a des associations qui existent pour les aider dans le transfert même presque de compétences quand il y a des œuvres qui sont hébergées dans ces bâtiments. Et aller au-delà des bâtiments, parce que quand même la vie religieuse, elle a aussi, entre guillemets, entretenu ce patrimoine qui fait l'histoire de notre pays. Et voilà, quel pont on pourrait de nouveau aussi tisser avec les associations, avec les diocèses et puis avec l'État pour faire perdurer ce patrimoine et puis profiter de ce charisme qui s'est développé dans ces bâtiments pour que durent les choses. Par exemple, à l'abbaye de Jouarre, il y a un projet qui s'est préparé sur de longues années. Les sœurs ont cédé un bâtiment à une association dans le domaine de la solidarité. Et voilà, c'est passé des sœurs à des laïcs. Et ensemble, ils vont pouvoir travailler pour accueillir des gens en difficulté. Donc voilà, il y a des évolutions pour inventer des choses nouvelles. Et c'est là-dessus que l'interpellation du pape, elle nous encourage dans cette dynamique.
Mais si je ne me trompe pas, les bénédictines du monastère de Jouarre en Seine-et-Marne, ces logements donc ont été repris par le Secours catholique, mais est-ce que les associations ont aussi les moyens précisément de pouvoir racheter en partie du patrimoine, collaborer en quelque sorte à cet esprit d'accueil qui a été celui des monastères ?
C'est toute la difficulté quand on rajoute aussi les conditions de sécurité, les normes, les lois qui régissent tout ça. Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'espérance en l'homme et en notre société pour avancer. Mais ces projets, ils aboutissent toujours, même si ça prend du temps. Il faut persévérer pour ce service du plus petit.
Le pape François, qui a repris ce mercredi matin lors de l'audience générale les catéchèses sur l'Église en cette année de la foi, s'attardant sur la nature de l'Église. Le Concile Vatican II nous dit que l'Église est notre mère dans la foi, a souligné le pape. En effet, la foi est un don de Dieu qui nous est donné dans l'Église et à travers l'Église, par le baptême. Ainsi, notre lien à l'Église est vital comme celui qu'a une mère avec son enfant, a dit François. De plus, comme toute bonne mère, l'Église nous nourrit et nous soutient par les sacrements et par la transmission de la parole de Dieu. Elle n'est pas quelque chose d'autre que nous, elle est la communauté des croyants, a poursuivi le pape. Tous nous sommes appelés à être des éducateurs dans la foi, à annoncer l'Évangile. Tous nous participons de la maternité de l'Église afin que la lumière du Christ atteigne les extrémités de la terre. Le pape a ensuite salué les pèlerins venus de différents pays. Il s'est notamment adressé aux fidèles de langue arabe, en particulier ceux provenant de Syrie, du Liban et de l'Irak. L'Église est une mère qui partage avec ses enfants les joies et les douleurs, les échecs et les succès, les défaites et les victoires, a déclaré le pape François. Justement, concernant la Syrie, le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Cyril Ier, a envoyé mardi, à la veille du 12e anniversaire des attentats du 11 septembre, un message au président américain. Dans ce texte diffusé par le patriarcat et relayé par l'agence Fides, il invite Barack Obama à mettre de côté les plans d'attaque militaire contre le régime syrien et à parier sur la voie de la diplomatie. L'Église orthodoxe russe, écrit Cyril Ier, connaît le prix des souffrances et des pertes en vie humaine après que notre peuple ait survécu au siècle dernier à deux guerres mondiales dévastatrices ayant causé la mort de millions de personnes et ruiné la vie à une multitude d'autres. En outre, nous ressentons comme nôtre la douleur et les pertes subies par le peuple américain dans le cadre des terribles attentats du 11 septembre 2001. Le patriarche de Moscou et de toute la Russie demande au président américain d'écouter les voix des chefs religieux qui, de manière unanime, s'opposent à toute interférence militaire dans le conflit syrien et l'invite à faire tout ce qui est en son pouvoir pour entamer au plus vite des négociations de paix. Selon lui, une intervention militaire extérieure en Syrie pourrait favoriser la conquête du pouvoir de la part de forces radicales qui n'auront certes pas l'intention de garantir la coexistence interreligieuse au sein de la société syrienne. À cet égard, le patriarche exprime une préoccupation particulière pour les chrétiens de Syrie qui, dans ce cas, serait soumis à la menace d'une extermination ou d'un exil de masse. Aller vers l'autre, dialoguer avec ceux qui ne partagent pas la même foi et les mêmes croyances, c'est l'injonction continuelle de François depuis le début de son pontificat. Il le prouve une nouvelle fois dans les actes en adressant une lettre à ceux qui ne croient pas au directeur du quotidien italien La Repubblica. Le pape répond à Eugenio Scalfari qui, dans les colonnes de son journal, avait proposé une série de réflexions sur l'Église et le ministère des souverains pontifes après avoir lu la première encyclique du pape François, Lumen Fidei, écrite avec son prédécesseur Benoît XVI, compte rendu de cette lettre avec Olivier Bonnel.
Par cette lettre, François met en œuvre l'un des buts de l'encyclique Lumen Fidei, celui d'un dialogue sincère et rigoureux avec un non-croyant qui n'en reste pas moins intéressé et fasciné par les questions liées à la foi. Un dialogue qui prend tout son sens dans nos sociétés contemporaines, si peu sensibles à la transcendance et à la figure divine. Ce dialogue n'est pas une mondanité, mais bien un impératif pour le croyant qui se doit de témoigner de sa foi au Christ. Le pape rappelle ainsi que sa foi est née de la rencontre avec Jésus, une rencontre personnelle qui a touché son cœur et donné un sens à son existence. Dans son dialogue avec le directeur de la Repubblica, François parle donc du Christ, de sa vie, de son message. « Vous me demandez si le Dieu des chrétiens pardonne ceux qui ne croient pas et ne cherchent pas la foi, écrit-il. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite si l'on s'adresse à lui avec un cœur sincère et contrit, explique-t-il, précisant que pour ceux qui ne croient pas en Dieu, la question est d'obéir à sa conscience. » Dans sa missive, le pape indique aussi que même pour les croyants, la vérité ne saurait être absolue, car elle est d'abord relation avec Jésus et chemin permanent. Car l'Église, conclut le pape, malgré ses péchés, n'a pas d'autre sens et d'autre fin que de vivre et de témoigner de Jésus.
Restons en Italie, à Rome, où depuis fin août se tient le 184e chapitre général de l'Ordre de Saint-Augustin. Le pape François l'avait inauguré en célébrant la messe à l'église Saint-Augustin en plein cœur de la capitale italienne. Une première. Depuis, les quelques 90 participants venus du monde entier ont élu leur nouveau prieur général. Ils ont choisi un Espagnol, le père Alejandro Moral. D'ici la fin de la semaine, ils doivent mettre au point les priorités de l'Ordre pour les 6 prochaines années et réfléchir à d'éventuelles nouvelles mission. Audrey Radondi s'est rendue sur place.
À quelques pas de la place Navone, cachée au regard, l'église Saint-Augustin. L'édifice de la fin du XIIIe siècle est surnommé le Petit Salon de Rome pour sa sobriété, sa beauté architecturale et ses trésors artistiques, parmi lesquels des œuvres du Bernin et du Caravage. Des œuvres que le cardinal Bergoglio a pu admirer. Le futur pape François logé toujours en face de cette église. Le père Angelo Di Placido, le curé de la paroisse de Saint-Augustin, explique pourquoi la venue du pape est importante.
L'importance historique, parce que...
Cet événement est historique parce que c'est la première fois depuis que l'ordre des Augustins s'est réuni en un seul corps en 1244 et que depuis se sont réunis 184 chapitres généraux qu'un chapitre général est inauguré par un pape. C'est important historiquement, en plus de la joie et de l'émotion, car le pape porte la joie, porte Jésus, et de fait, nous en avons besoin, nous aussi, les prêtres. Pour tous ces motifs, c'est important et historique, c'est un véritable événement.
Hyacinthe Kpomadje assistera demain à la messe célébrée par le pape. L'ordre de Saint-Augustin l'a encouragé à venir à Rome pour y faire son noviciat. Il attend avec impatience cette rencontre.
Ça, vraiment, je suis très content de participer à une messe corps à corps avec le pape demain. Bon, cela exprime la fraternité du pape avec l'église entière et puis sa collaboration directe avec les augustiniens en particulier.
Après avoir célébré l'Eucharistie, le pape François ira prier dans la chapelle de Sainte-Monique, la mère de Saint-Augustin. Il allumera un cierge, un acte de dévotion et de souvenir.
Et c'est avec ce sujet réalisé par Audrey Radondi que prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Plus de précisions sur notre site internet www.radiovaticana.va. Je vous invite également à vous rendre sur notre page Facebook Radio Vatican en français.